Radio Barque, quatrième de notre saison, mais troisième partie. Comme je l'indiquais en début d'émission, c'est François Lieta qui nous a rejoint. Bonjour François Lieta.
Bonjour.
Et donc vous êtes depuis 6 mois maintenant.
Depuis janvier.
Depuis
un peu plus,
une dizaine de mois. Président des Républicains dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes relativement jeune pour le profit, mais vous êtes déjà, comme vous nous l'aviez expliqué une première fois dans une première visite, relativement ancien déjà dans la politique des Pyrénées-Orientales.
Oui, moi je me suis engagé en 2006, mais je me suis vraiment impliqué à partir de 2007.
Oui, voilà. Bon, ce qui, vu votre âge, c'est déjà pas mal.
En
longueur. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie? Vous avez été jeune pop à l'époque, comme on disait. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à un moment, de gravir un échelon quand même important?
C'est parce que je voulais transformer un peu le fonctionnement de mon parti dans mon département et accompagner dans le mieux possible aussi une nouvelle génération à prendre des responsabilités. Et donc il fallait un peu pour ça s'impliquer et tenter de prendre la présidence du parti dans le département. Et puis ça s'est fait avec l'appui des militants, donc tant mieux.
C'était le syndrome du 109 un peu?
Ouais, un peu, c'est vrai. Puis bon, il y avait quand même, ça faisait quelques temps que j'étais, donc j'étais identifié par les militants, je m'étais beaucoup impliqué chez les jeunes. Et puis, je pense vraiment qu'il y a une volonté aussi de renouvellement dans le personnel politique, mais aussi surtout dans la façon de faire de la politique. Voilà, pas uniquement dans les personnes.
Et là, maintenant, donc 10 mois plus tard, avec déjà une petite expérience, est-ce que vous êtes satisfait de ce début? Vous sentez que vous aurez les coudées franches?
Je suis pas totalement satisfait de tout, mais quand on est toute une équipe, il faut faire des compromis dans un fonctionnement ou dans des choix pour les élections futures, mais majoritairement, dans beaucoup de choses que j'ai pu faire, surtout au sein de la fédération, dans son fonctionnement ou dans sa manière de communiquer, je suis satisfait. Oui.
Alors il faut savoir que chez vous, le Parti Républicain, même si il n'est plus au pouvoir, par exemple dans le département aujourd'hui, est un parti qui a été au pouvoir un certain temps, contrairement à ce qui se passe par exemple dans l'Aude, où on sait que les socialistes sont là depuis des décennies. Chez vous, il y a une alternative et une alternance qui reste possible.
Enfin, depuis 98, il n'y a plus d'alternance, puisqu'on a perdu le département, enfin ma génération précédente a perdu le département en 98.
Il reste Perpignan quand même.
Et voilà, on a encore... Oui, mais vous avez aussi, dans le département, Carcassonne, ça bascule de temps en temps, Marbonne aussi. Bon. Et donc, nous, au niveau en tout cas de la structure départementale, depuis 1998, on n'a plus du tout les commandes, et puis la région depuis 2004.
Oui, bon. Et donc, ça fait partie, j'imagine, de vos plans de guerre, entre guillemets.
Oui, alors là, c'est une échéance qui est plus longue, mais c'est des échéances locales, moi, surtout, donc les municipales, les départementales, où je pense que l'action de la fédération sera visible le plus, parce que les élections nationales qui vont venir sont quand même très liées à la tendance nationale, donc c'est difficile pour une fédération de les influencer, surtout dans son fonctionnement, mais dans la mobilisation des militants, oui, par contre, ça se jugera. Mais je pense que l'action des présidents de fédération élus en 2016, s'ils sont réélus en 2018 ou s'ils se représentent, puisque les élections tous les 2 ans et demi seront véritablement visibles lors des élections locales de 2020.
D'accord. Alors à propos des nationales, vous supportez ou vous soutenez Monsieur Le Maire,
Bruno Le Maire, mais pour la primaire,
Bruno Le Maire, bon, toujours ce côté jeune un peu, ou c'est un hasard.
Non. C'est vrai qu'il y a un côté jeune chez Bruno Le Maire. Il y a aussi une façon de faire la politique chez Bruno Le Maire qui me séduit, parce qu'il y a une façon d'être et une façon de avec les adhérents, les militants, puis bien sûr c'est aussi ses idées, et c'est d'ailleurs un événement essentiel. Et quand il porte certaines idées sur le renouvellement politique, c'est vrai, sur la moralisation de la vie politique, je suis parfaitement d'accord avec lui, sur les relations avec les pays du Golfe aussi, je pense qu'il a raison, puis après il y a plein d'autres petites idées qui m'ont séduit. Tout n'est pas parfait non plus chez Bruno Le Maire, mais c'est pour moi le meilleur des candidats à la primaire.
François Calvet, j'ai connu quand j'étais conseiller régional, quels sont... Son favori.
Alors, il a parrainé Jean-François Copé pour être candidat. D'accord. Et aujourd'hui, il semble soutenir Nicolas Sarkozy.
D'accord, ne m'étonne pas.
Bien. Alors, François Lieta, même si votre candidat préféré, favori, c'est Bruno Le Maire, vous êtes, en tant que président des Républicains, obligé de préparer ces fameuses primaires, et ces primaires, vous les préparez pour tout le monde. Comment ça se passe?
Alors, ben, on parlait de François Cavé tout à l'heure. Donc, François Cavé était chargé d'organiser la partie logistique de la primaire dans le département, puisqu'on a 67 bureaux de vote. Et donc, il faut bien sûr trouver les différentes salles et les différents bénévoles qui vont s'occuper pendant les 20 et 27 novembre, de 8h à 19h, de tenir les bureaux de vote. Et donc, c'est fait, c'est en train d'être finalisé. Et puis, moi, je m'occupe de la partie plus politique, et on a fait venir un certain nombre de personnalités dans le département pour que, justement, ils puissent défendre leur programme. Ça a été le cas de Bruno Le Maire, qui est venu deux fois, Jean-François Copé, Madeleine Morano, Hervé Mariton, qui n'ont pas été retenus, mais qui sont venus. Et puis également Alain Juppé et Nicolas Sarkozy.
Alors ça, c'est vous qui gérez ça.
Oui, la partie plus politique me revient, et puis la partie logistique est tenue par François Calvé qui le fait très bien.
Alors à propos de ces primaires, il faut le rappeler. Je sais que, par exemple, dans notre département, Michel Pil l'a déjà dit à ce micro et martelé, il faut bien rappeler que tout le monde peut voter et non pas forcément les gens qui sont républicains.
Voilà, mais tous ceux qui partagent les valeurs de la droite et du centre, hein, puisqu'il faut aussi signer une charte qui précise que vous reconnaissez dans les valeurs de la droite et du centre. Et après, bien sûr, oui, il n'y a aucune obligation de détenir une carte d'un parti politique. La seule obligation, c'est de signer cette charte et de participer aux frais de la primaire à hauteur de 2 euros.
Oui, voilà, ce qui reste quand même accessible, même au petit peuple.
Oui, tout à fait. C'est
voilà. Y compris à des gens du petit peuple de gauche.
Il faut qu'ils signent la charte. Alors, si vous voulez, moi, je n'irai pas signer la charte de gauche s'il y avait une primaire à gauche. Donc, je pense que les électeurs de gauche ne viendront pas signer une charte de droite. Après,
donc,
je
fais et pour je suis temps, parfaitement je d'accord. Mal, et pourtant, la remarque.
J'ai plus lui-même qui fait allusion lui-même.
Je sais que aux socialistes, ils ne sont pas un renoncement prêt, mais quand même, bon, sur les valeurs, j'espère qu'il leur en reste un peu.
Oui, socialiste peut-être, mais Michel a raison. Il y a quand même des gens de gauche qui clairement laissent entendre qu'il faut venir voter. Alors, avec une volonté de manipulation. Comment vous voyez ça, vous?
Non, parce que. Alors, c'était aussi une.
Et comment peut-on s'y opposer, tiens?
Alors, on ne peut pas s'y opposer parce que, si vous voulez, bon, déjà, il faut savoir qui vote à gauche, qui vote à droite dans une élection, ce qui est assez difficile s'il y a 3 millions de votants. Bon, ça va être compliqué d'identifier les personnes.
Et puis les gens peuvent changer d'une élection à l'autre.
Oui, voilà. Puis après, il peut y avoir effectivement des gens qui sont tendanciels, qui sont un peu dans les deux valeurs, qui sont pas totalement d'accord sur la gauche, pas totalement d'accord sur la droite, mais qui se retrouvent
ou qui choisissent l'homme, ou
qui choisissent l'homme, etc. Ça peut effectivement exister. C'était une crainte qui existait aussi quand on regarde la primaire de 2011 des socialistes. Ça a été aussi une de leurs craintes. Et puis finalement, quand on regarde les chiffres, ça s'est pas finalement vraiment développé.
Oui, c'est des phénomènes, des épiphénomènes.
C'est marginaux, quoi. Si vous avez peut-être 2-3 personnes par bureau qui sont de gauche dans les petits villages.
Fondamentalement, faire bouger les lignes, quoi.
Mais enfin, c'est quand même
pas sur un scrutin national.
Enfin, ça doit quand même vous amuser quand vous voyez des gens de gauche qui disent qu'il faudra aller voter à cette primaire de
Il est certain que s'ils voyaient arriver le secrétaire du parti, la Fédération Socialiste, des PO, déposer un bulletin dans la case, dans l'urne du Parti Républicain.
Voilà, si je vois, si vous voulez. Qui vient, qui est encore la seule à croire en François Hollande, ça me fera sourire, effectivement. Mais bon, elle n'est pas prête non plus, elle a un renoncement prêt, donc je veux dire, à la limite, pourquoi pas.
Bien, alors, faites-nous savoir si jamais elle venait, si vous la voyez voter à ce moment-là, qu'on en parle dans Radio Bark, parce que ça serait un bon sujet pour nous.
Non, mais elle nous abandonne souvent dans le territoire des Pyrénées-Orientales, donc je ne suis même pas sûr qu'elle sera là pour la primaire.
Alors, on reviendra peut-être, si on a du temps à la fin, sur la future présidentielle, même si vous disiez tout à l'heure, et c'est évident que les PO ne vont pas peser un poids extraordinaire, puisque c'est une nationale. Mais pour le moment, au niveau local, vous avez pris position récemment pour soutenir le mouvement des policiers, par exemple, sur Perpignan.
C'est important. Enfin, oui, c'est important, parce que on a vraiment l'impression, sur les forces de l'ordre, et d'ailleurs, hier, j'assistais à une conférence sur le terrorisme, qu'on attend toujours l'incident, l'attentat, le dérapage, pour finalement se dire il faut équiper nos hommes de police avec du matériel adéquat. Voilà. Et je comprends les forces de l'ordre qui sont toujours dans cette position de réclamer, et puis il va falloir qu'il y ait un attentat pour qu'on les équipe avec des protections un peu plus conséquentes, et encore c'est pas totalement fait. On va attendre qu'il y ait deux policiers qui soient gravement brûlés pour se dire tiens, il faut peut-être revoir la légitime défense. Voilà, il faut anticiper, parce que les phénomènes sont connus depuis les attentats, mais aussi de plusieurs années. Et je ne dis pas que la droite n'a pas échoué à un moment donné, mais il faut vraiment aujourd'hui accompagner ces forces-là, parce que c'est aujourd'hui le vrai rempart face à des problèmes de délinquance qui sont on va dire, mineurs par rapport aux actes terroristes, mais c'est aussi eux qui sont face à des terroristes à une situation donnée. Donc il faut leur donner l'équipement pour intervenir et les moyens d'intervenir à la fois techniques, législatifs, et puis il faut aussi accompagner des réformes judiciaires pour qu'on ne voit pas, quelques jours après, des délinquants qui ont été arrêtés, relibérés une fois, 10 fois, 20 fois.
Oui, voilà. Alors sur le plan symbolique, Jean-Marc Pujol, qui est le maire de Perpignan, a demandé un renforcement de l'armement, mais de la police municipale, celle qui dépend de lui, bien entendu. Hein, un renforcement, je crois, des pistolets.
Ah, il veut carrément équiper avec des armes de poing qui soient plus conséquentes, mais aussi des armes automatiques de type petite mitraillette, je ne sais pas exactement le qualificatif. Mais
fusil d'assaut,
fusil d'assaut, voilà, mais des modèles un peu intermédiaires. Pourquoi ? Parce qu'il fait l'analyse aussi, comme beaucoup de maires, c'est que la police nationale est de plus en plus en retrait, parce que les effectifs baisse parce que il n'y a pas finalement de recrutement dans ces forces de l'ordre, où il n'y a pas de redéploiement sur le territoire, et donc on demande de plus en plus aux polices municipales de faire des missions de la police nationale. Donc il dit à juste titre, si demain il y a un incident dans ma commune, ce sera les policiers municipales qui risquent d'être en première ligne, donc il faut aussi leur fournir un équipement nécessaire, parce que derrière les policiers municipaux sont quand même des hommes et des femmes, et qui sont là pour nous protéger, ils ne sont pas là pour se faire tuer.
Alors justement, revenons sur le côté plus politique et psychologique du soutien que vous estimez nécessaire. Par exemple, revoir la notion de légitime défense, revoir au niveau de la justice l'application peut-être des lois déjà de celles qui sont existantes et peut-être d'autres lois. Est-ce que pour vous, ça va être un des points importants de cette future campagne ?
Oui, ça en est un. Ça en est un, parce que la sécurité est devenue un enjeu majeur, d'autant plus que on voit dans les conflits internationaux, et en particulier celui qui nous oppose à Daesh, que lorsque Daesh recule dans ses positions, ce qui est aujourd'hui le cas, on voit de plus en plus l'offensive terrestre en Irak, a tendance à se replier sur les attentats à l'aveugle en Europe. Ça veut dire que la sécurité va être un enjeu majeur. C'est un des enjeux parmi d'autres, hein, bien sûr, de la présidentielle, ce ne doit pas être le seul, mais ça va compter.
Oui, Michel. Oui,
surtout que, bon, on va voir comment les choses vont évoluer en Irak, mais la probabilité que revienne en France un contingent non négligeable, voilà. Puisque je le rappelle quand même, la France a fourni le plus gros contingent en fait européen de djihadistes en fait en Irak. La probabilité qu'ils reviennent sur le sol national avec leur famille relativement élevée, et donc à ce moment-là, effectivement, il va falloir gérer en termes sécuritaires et pénal ce retour, ce qui va pas être très simple.
Alors, j'aime pas trop quand on dit la France, parce que c'est pas la France le pays qui fournit, ce sont des personnes qui détiennent la citoyenneté française.
Oui, c'est pas vrai. Une fourniture
mais,
officielle,
voilà.
Évidemment.
Mais pour moi, c'est pas des Français, parce qu'ils font du terrorisme et ils massacrent des gens de façon totalement aveugle et pour des convictions indéfendables. Donc pour moi, c'est pas la France, c'est un élément.
Oui, c'est vrai, mais bon, ce sont des. Qu'on le veuille ou pas.
Hein. Ce sont des Français, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas la France au sens étatique. Oui. Et bon, c'est pour ça que je.
Évidemment.
Mais ils restent incontournablement des citoyens français.
Donc, tout à fait. Ils doivent être traités juridiquement et pénalement comme des Français.
C'est un vrai problème, parce qu'effectivement, le retour qui est probable de ces gens-là, à un moment donné, s'ils n'ont pas été liquidés lors de conflits sur place, va poser un vrai problème. Et j'espère qu'on aura une réponse pénale, mais qui soit d'une fermeté exemplaire. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il ne faut pas faire d'angélisme.
Alors un petit point aussi très local, le pays catalan, le país català, c'est une grande revendication avec manifestation à l'appui au cours des dernières semaines. Mmh. C'est-à-dire en fait, bon, pour dire les choses de façon populaire, les Catalans roumèguent contre le fait qu'on ait retenu uniquement Occitanie et que le mot catalan n'apparaisse plus. Alors il y a une grande manifestation, il y a une volonté de créer un parti. Quel est votre regard, vous, François Lieta, en tant que président des Républicains de ce département?
Alors, à partir du moment où vous avez un choix d'identité, qui est pour le nom de cette nouvelle région, qui a été un choix identitaire et non plus culturel et non plus un choix géographique, vous avez forcément fixé les attentions et créé le clivage dans les différentes identités de la région. Et forcément, les Catalans se sont sentis lésés à juste titre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une région qui s'appelle Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, sauvetage de ce nom géographique. Mais malheureusement, c'est sûr que les Catalans se sentent oubliés. La création d'un parti politique politique qui s'appuie sur une manifestation qui n'était pas dans ce sens-là au départ, est à mon sens une récupération politique dans bonne et due forme de certaines personnes qui avaient d'autres ambitions. Pour moi, malheureusement, le mal est fait. Je crains qu'aujourd'hui ce soit fixé. Ségolène Neuville, le ministre socialiste du département, avait promis de changer les choses. Bon, on a vu ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, on va malheureusement rester avec ce nom, qui n'est pas un nom satisfaisant, il faut clairement le dire. Je ne crois pas, moi, à un statut particulier, à une séparation de la France et une création d'un État indépendant, parce que mon seul pays, c'est la France. Et même si je me sens très fortement catalan, je pense que notre avenir est en France.
Oui, donc vous ne faites pas partie des indépendantistes proclamés.
Non, je suis pas indépendantiste.
Est-ce que, par exemple, cette manif, vous y étiez, François Lyotard?
Non, moi, j'y étais pas parce que à titre personnel, et je comprends que beaucoup d'élus ou de militants y sont allés parce qu'ils ils sont attachés à la culture catalane, mais moi aussi. Mais je voyais derrière la récupération politique qui se préparait, et donc je ne voulais pas y participer.
Une récupération politique, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, je peux le dire, profite à Madame Delga, c'est-à-dire celle qui est à l'origine de la création occidentale. Parce qu'elle-même dit « Oui, mais allez-y, hein, c'est le nom du département qu'il faut changer, donc commencez par créer un parti pays catalan et comme ça vous aurez votre identité départementale. Hein. » Donc c'était une manière pour elle et ses amis, effectivement, de détourner la contestation sur le nom générique. Parce que je le rappelle au passage, il y a des à gauche, notamment je pense à René Soun parce que je la connais un petit peu, bon, qui est aussi sur une revendication culturelle, elle est fondamentalement opposé, effectivement, à une stratégie indépendantiste.
Oui, enfin, quand même, les socialistes sont quand même les premiers des responsables tout le monde de la région, parce qu'ils sont la majorité à la région. Bon, et ils nous font croire que là, ils vont changer les choses. Ça, c'est le premier point qui m'a un peu refroidi sur la manifestation. Et le second, c'est la création de ce parti quelques semaines après, hein, oui, puis 4 ans par les organisateurs, qui quand même fait cette partie indépendantiste, et puis qui passe son temps à dénigrer l'ensemble des élus qui sont intervenus, l'ensemble quasiment, même la population, quand on lit un peu ça. Bon. Donc, du coup, je ne voulais pas participer à ça. Mais effectivement, je comprends parfaitement, par contre, l'ensemble des personnes citoyens et élus qui ont participé à cette manifestation, juste sur l'aspect d'identité et reconnaissance d'identité. Et ça, sur ce point-là, j'aurais pu être présent que sur ce point-là. Oui, j'aurais été présent.
D'ailleurs, pour conforter ce point de vue, si je peux me permettre, le nombre d'élus faits de base, de maires, quoi. Droite et de gauche, d'ailleurs, on pose maintenant, il n'y a pas des panneaux.
Oui.
Mais il y a une revendication identitaire qui n'est pas d'ailleurs une revendication indépendantiste chez ces élus-là. Hein. C'est une revendication juste de respecter notre identité. Et je pense que la majorité, à la fois des élus, mais aussi la population, est dans une revendication sur l'identité, de ne pas nous oublier, mais pas dans une revendication indépendantiste. Voilà.
Un dernier point, François Lyotard, donc. La grosse élection qui va compter pour vous, puisque vous travaillez sur les primaires, c'est la présidentielle. Vous, en tant que donc de l'identité catalane, comment allez-vous essayer de la faire ressortir et de lui apporter un plus grand profit lors de cette élection nationale, dont vous soulignez tout à l'heure qu'elle est nationale? C'est-à-dire comment vous allez vendre les PO, si vous me permettez cette expression.
Pour vous, dans la foulée, est-ce que les investitures ont été déjà en fait faites pour les législatives?
Oui, les législatives, elles ont été faites en juin.
Donc à travers les hommes, peut-être.
Oui, voilà. Après, c'est aussi chaque candidat à la présidentielle, à son programme. Ce sera difficile de dire on va parler que du pays catalan parce qu'on va vexer les Bretons, etc. Donc il faut qu'il y ait un peu une politique et un programme qui respecte l'identité régionale et les langues régionales. Donc ça, on voudra voir quels sont un petit peu le programme de chaque candidat sur ces points-là. Une fois que le programme définitif sera, et qu'on aura le candidat et que le programme définitif aura été celui d'alternance qui a été voté, soit mis en place, mais également éventuellement, je pense, des compléments avec le candidat investi. Et puis après, ce sera aussi à nos candidats républicains dans le département des Pyrénées-Orientales à porter, si vous voulez, la défense de la culture. Et je pense, quand ils défendront la culture catalane, ils défendront l'ensemble des cultures de notre nation.
Il y a la culture, mais il y a aussi l'économie. On sait que les PO, c'est un des départements où le chômage est le plus élevé. Donc là
c'est
aussi,
le plus élevé, j'imagine.
Donc là, j'imagine que là aussi, pour vous, c'est une des priorités incontournables de tous les moments.
Oui, parce que malheureusement, entre 2012 et 2017, les socialistes avaient tous les pouvoirs pour pouvoir faire de l'économie et de la formation. L'État, la région, le département. Malheureusement, ils n'ont pas saisi cette chance pour notre département. Et du coup, on est aujourd'hui le département avec le plus grand taux de chômage de France. D'autant plus que on est en train de se précariser. Les emplois sont très précaires aujourd'hui. On parle d'inversion de la courbe du chômage. Bon, c'est un artifice par des formations, par des contrats
oui,
aidés
ben
en nombre.
On en a parlé dans notre deuxième
donc,
partie.
Je veux dire, c'est une arnaque communication qui malheureusement prend en otage les gens qui sont aujourd'hui dans cette situation précaire. On a une paupérisation de la population qui est de plus en plus galopante, y compris et surtout dans mon département des Pyrénées-Orientales. Le Conseil général n'a pas fait cette et la région n'ont pas fait cet effort de formation, d'accompagnement des chômeurs. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de statu quo, de clientélisme en se disant c'est une donnée électorale. Et aujourd'hui, on abandonne des gens qui ne peuvent pas retrouver un emploi parce qu'on ne fait pas le développement de l'économie, on les forme pas et on a l'impression que ça satisfait notre pouvoir socialiste en place. C'est malheureux pour ces gens-là et il faudra effectivement que l'État et que le candidat et de les Républicains porte un vrai projet sur la formation professionnelle et sur le développement de l'économie dans l'ensemble des territoires. Parce qu'aujourd'hui, on est un département des Pyrénées-Orientales qui est dans une situation catastrophique et malheureusement, la paupérisation, la précarisation entraîne souvent le désespoir et le choix des extrêmes avec les conséquences derrière plus graves.
Voilà, ben un beau programme pour vous de toute façon dans les années qui viennent, François Lieta. Merci en tout cas d'être venu justement nous parler de cette responsabilité que vous assumez maintenant depuis une dizaine de mois, vous nous l'avez précisé. La prochaine émission recevra Thierry Pfister, qui est, alors on va parler politique encore, mais d'un autre regard, puisque Thierry Pfister, pour son livre qui vient de sortir, Tu ne crois pas que tu exagères ou comment ne pas désespérer les socialistes. Thierry Pfister étant quelqu'un qui est narbonné aujourd'hui, mais qui a vécu pendant des années dans le milieu parisien, dans les sphères du pouvoir et des médias également, puisqu'il a été journaliste au Monde et au Nouvel Observateur. Alors, un livre sur le Parti socialiste, pas forcément à la louange du Parti socialiste. Nous y reviendrons lors de notre prochaine émission. Merci encore François Lieta et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.